Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour. Avant d'être élu à la présidence de la République, Emmanuel Macron disait ceci, c'était en 2015. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes, notamment. Fin de citation. Dans ce nouveau numéro du magazine Idée, nous allons justement parler de la mort du roi Louis XVI, décapité le 21 janvier 1793, et en quelque sorte revenir sur cette déclaration. Cette exécution était-elle le prix à payer pour fonder la République ? S'agit-il en somme d'un sacrifice rituel ? La République aurait-elle pu naître sans cet acte ô combien chargé de symboles ? Ce sont des questions qui vont être au cœur de notre conversation avec notre invité, l'historien Jean-Clément Martin, qui vient d'écrire « L'exécution du roi, 21 janvier 1793 », un livre précis, passionnant, publié chez Perrin. Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, www.rfi.fr, ou sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Jean-Clément Martin.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Vous êtes un spécialiste de la Révolution et de la contre-révolution. Ils ne sont pas nombreux, les historiens qui s'intéressent à cette question, à ce moment. Et vous avez consacré de nombreux livres à la Révolution française, à retenir notamment votre nouvelle histoire de la Révolution française en 2012, ou sur la terreur en 2017, ou bien un livre sur Robespierre en 2016. Ce 21 janvier 1793, la France est entre Révolution et République, ou est-elle déjà dans la République? Il faut rappeler que la République a été proclamée en septembre 1792.
Oui, vous avez. Merci de cette présentation. L'orientation que j'ai suivie pour ce livre tourne effectivement autour de ce conflit au sein de la Convention entre les députés qui sont partisans de mesures, on va dire, révolutionnaires, qui veulent donc en quelque sorte prolonger la révolution, continuer à la faire, et ceux qui sont en train de se, on peut dire ça comme ça aussi, se contenter de la République, même si le mot République, personne ne sait ce que ça veut dire, parce que en septembre 1792, quand le mot République apparaît, c'est un peu, on va dire, par hasard que ce mot arrive, sans que les bases du régime ne soient pas fondée, ne soit pas définie. Donc on est là dans un moment de lutte, et ce qui m'a semblé important, et c'est tout l'objet du livre, c'est de dire l'exécution du roi, c'est-à-dire vraiment la procédure qui a fait que le roi a été envoyé à la mort, cette procédure voulue par une partie de l'opinion, et vous citiez tout à l'heure la formule d'Emmanuel Macron, candidat à la présidence, parlant du peuple qui voulait la mort du roi. Donc c'est une partie de l'opinion qui voulait la mort du roi, effectivement, et cette partie de l'opinion a obligé les députés à engager un procès, et il y a eu là, au moment de ces mois de 1792-1793, un grand débat pour savoir si on allait en quelque sorte prolonger la révolution, ou si on allait trouver le moyen de s'accommoder de la présence du roi, et puis arrêter la révolution. Parce que c'est bien ça dont il s'agit.
Alors, nous allons revenir sur les circonstances de cette exécution et surtout sur le processus qui a conduit à cette exécution. À l'issue d'un vote, deux députés, le roi a été jugé par des députés, c'est aussi important, on va le voir. Mais Jean-Clément Martin, je vous propose d'écouter maintenant un de vos confrères historiens, il s'agit de Jean Garrigue. Bonjour Jean Garrigue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique française, auteur de nombreux livres. Nous avons parlé ici même avec vous de votre République incarnée, c'était en 2019. Et votre dernier livre en date est un ouvrage que vous avez dirigé, qui s'intitule « Les perdants magnifiques » de 1958 à nos jours, chez Talandier. Cette déclaration, cette exécution et cette déclaration d'Emmanuel Macron me font dire que cette exécution, cette mort de Louis XVI a eu un impact après dans les siècles qui ont suivi et notamment dans l'instauration de la République.
Écoutez, c'est d'ailleurs en liaison directe avec cet ouvrage auquel vous avez fait allusion sur la République incarnée et sur un autre ouvrage que j'avais publié en 2012 qui était vraiment focalisé sur cette interrogation. C'est un ouvrage consacré à la recherche de l'homme providentiel dans la vie politique française au XIXe et XXe siècle. Pourquoi ? Mais précisément parce que, et en cela Emmanuel Macron avait raison de le souligner, à partir de l'exécution de Louis XVI, un vide s'est créé, un vide d'incarnation que les républiques successives n'ont cessé d'essayer de combler. Alors c'est vrai que Napoléon, bien qu'il fût un général de la Révolution française, a occupé cet espace de l'autorité monarchique, puis Napoléon III à son tour, et puis on sait bien que ce qu'on appelle la monarchie républicaine, c'est-à-dire la présidence façon de Gaulle, la manière d'exercer cette présidence et puis les institutions qui la sous-tendent font que on voit très bien qu'il y a un besoin d'incarnation de légitimité souvent irrationnelle d'ailleurs qui a occupé très très longtemps et qui continue à occuper les inconscients collectifs des Français, c'est-à-dire que la République a réfléchi et a souvent été en manque de cette figure d'incarnation.
Avec toujours Jean Garrigue, cette recherche inconsciente ou pas de l'homme providentiel, c'est-à-dire de cet homme qui pourrait incarner, ça c'est vous l'avez étudié, mais aussi sauver en quelque sorte un pays en crise.
Oui, alors ça c'est la spécificité de l'homme providentiel, mais qui d'abord, comme son nom l'indique, loin de la providence, comme l'était le souverain d'Ancien Régime. Donc on voit très bien qu'il y a une dimension à la fois d'ailleurs religieuse, mystique, irrationnelle, et monarchique dans cette figure, puisque par définition l'homme providentiel c'est quelqu'un qui est doté de capacités, d'un charisme, d'une légitimité irrationnelle ou symbolique, émotionnelle, on peut l'appeler comme on veut, qui précisément fait de lui quelqu'un qui est apte à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent dans la société. Toute qualité qui était appliquée au roi sous l'Ancien Régime. Donc on voit très bien, je le répète, ce manque. Et regardez à quel point aujourd'hui il est difficile pour un président de la République d'incarner justement ce rassemblement de tous les Français. Ça explique pourquoi il y ait en permanence cette référence, mais implicite et je le répète, qui est inconsciente bien souvent, à cette figure monarchique.
Est-ce à dire, Jean Garrigue, que les Français sont finalement des monarchistes contrariés ?
Alors, il y a des courants monarchistes, mais qui politiquement sont évidemment minoritaires. Mais il y a une sensibilité à cette figure d'autorité que représentait le monarque. Et je le répète, ça dépasse ceux qui commémorent, qui célèbrent tous les 21 janvier, des messes à la mémoire de Louis XVI. Non, il y a une sensibilité profonde qui est nostalgique de ce que représentait le monarque. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en Europe, nous sommes environnés de monarchies qui ont pu intégrer le fonctionnement démocratique tout en préservant la symbolique de ce pouvoir ou de cette autorité monarchique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui reste profondément ancré dans les peuples européens.
Une république qui est née avec cette exécution de Louis XVI, et donc dans la violence. Ça aussi, c'est important à signaler.
Oui, parce que ça va beaucoup marquer aussi les réflexions, notamment au XIXe siècle, sous la Troisième République, autour de l'idée que la Révolution doit être prise comme un bloc, c'est ce que disait Georges Clemenceau, ou au contraire, bornée au moment où elle dérive dans la terreur. Et on peut dire qu'au fond, le début de la terreur, c'est l'exécution de Louis XVI, ou peut-être même avant, avec l'invasion des Tuileries. Enfin, il y a un moment là terroriste qui pour beaucoup, y compris d'historiens, dès le XIXe siècle, pose un vrai problème d'interrogation sur ce qu'a été devait être la Révolution française. Et donc c'est vrai que est associé à cette idée de l'exécution du roi, historiquement et dans la mémoire des peuples, du peuple français, est associé justement cette idée de la terreur, et donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup plané sur la perception qu'on se faisait non seulement de la terreur, mais de la Révolution française, mais aussi de ce que devait être la République.
Merci Jean Garrigue d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé du caractère contemporain, entre guillemets, de cette exécution et de son impact dans ce qui a suivi, dans l'histoire qui a suivi, dans l'histoire de la République. Je rappelle donc que vous avez écrit et dirigé un ouvrage, c'est le dernier en date, qui s'intitule « Les perdants magnifiques de 1958 à nos jours ». Merci Jean Garrigue.
Merci à vous.
Jean-Clément Martin, vous avez écouté avec attention ce qu'a dit Jean Garrigue. Je voudrais qu'on suive un petit peu l'ordre que vous avez donné au livre et que l'on reparle de cette journée, on va commencer à l'envers en quelque sorte, du 21 janvier 1793 et de cette exécution de Louis XVI, bien programmée, bien préparée, bien organisée.
Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, j'ai presque envie de chambouler un peu votre ordre, si vous me permettez.
Faites, c'est vous l'invité.
Il me semble qu'il faut... J'aimerais bien partir de ce que Jean Garrigue vient de dire, des propos avec lesquels je suis, pour dire les choses simplement, assez en désaccord. Non pas que je conteste sur le fond ce qu'il dit, parce que je pense que ses analyses peuvent être parfaitement suivies, mais il me semble que les conclusions qu'il en tire sont trop fortes. Et je voudrais inscrire ce livre aussi dans ces perspectives-là. Parce que dire que, par exemple, le pouvoir doit être incarné et que nous vivons, nous, Européens, aujourd'hui, dans un milieu républicain environné de monarchies, oui, mais des monarchies sur lesquelles il faut quand même revenir, et je pense pas que je sois hors du sujet en disant que l'Espagne, c'est d'abord le respect par le roi d'Espagne des fueros, de toutes ces habitudes de respect des provinces. On voit ce qui se passe en Catalogne, on voit ce qui se passe au Pays Basque. Le roi des Belges, c'est quand même un pays divisé au moins en deux, si ce n'est en trois. La reine d'Angleterre règne sur un Royaume-Uni, mais avec l'Écosse, avec le Pays de Galles, qui ont même des législations différentes dans le domaine scolaire. Je ne parle pas de l'Allemagne et des Länder. De quoi parlons-nous ? Parlons-nous d'État respectant les habitudes communautaires, respectant la légitimité des droits des provinces, ou parlons-nous du pouvoir identifié à un pouvoir centralisé qui règle tout d'une façon systématique à partir de règles inspirées par des gens qui entourent le roi?
C'est le cas
en France.
Oui.
Bon, alors moi je crois que là il y a un problème, c'est-à-dire que nous confondons l'État avec le roi. Et je dois dire qu'en tant qu'historien et en tant que citoyen, quand j'entends parler des pouvoirs et des ministères régaliens aujourd'hui en France, mais je dois dire que ça me met dans une colère noire. Il n'y a pas de ministère régalien. On ne confond pas les pouvoirs du roi avec les pouvoirs de l'État, qui sont les pouvoirs de l'administration. Nous confondons tout.
C'est peut-être à cause d'un autre roi qui disait « l'État, c'est moi », qui aurait dit « l'État,
alors,
c'est moi ».
Alors, il y avait ce roi, mais le roi Louis XIV, malgré tout, avait en face de lui des États. Je pense par exemple aux États de Bretagne qui pouvaient le contredire, et celui qui a véritablement tout confondu, c'est pas Louis XIV, c'est pas Louis XV, c'est pas Louis XVI, c'est Napoléon. C'est quand même Napoléon qui organise tout autour d'une administration qui reste aujourd'hui cette base sur laquelle nous vivons toujours, où l'on confond le pouvoir de l'État avec celui de l'administration dans une espèce d'opacité totale.
Où tout est confondu, effectivement.
Où tout est confondu, ouais, ouais. Et où les gens échangent leur poste. Bon. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui fait que il faut se poser la question. Alors, je suis pas particulièrement gauchiste, mais vivons-nous en démocratie? C'est ça la question. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections continuellement que nous sommes en démocratie, et ce n'est pas parce que il faudrait qu'il y ait un homme à la tête du pouvoir pour l'incarner que nous sommes dans un pouvoir vide. Ça aussi, je veux être un peu pédant, je dirais, c'est la thèse de Claude Lefort.
Il y a une Claude Lefort qui disait d'ailleurs qui prétendait que l'exécution de Louis XVI était le début du totalitarisme.
Absolument, c'est ça. Voilà. Et moi, je suis, alors, pour dire les choses simplement, en désaccord formel. En désaccord formel. Ce qui a conduit à la mort du roi, c'est effectivement des luttes politique extrêmement vive au moment des années 1792-1793. Et là, je reprends votre agenda.
On va se couler. Nous repartons.
On repart dans le bon sens, si j'ose dire. Mais c'était aussi le refus de ce pouvoir centralisé. Et quelque chose qui est certainement au cœur de toute notre histoire, qui est la peur du pouvoir central.
Alors, revenons à votre personnage d'étude, voilà. Louis XVI et à la Révolution, Jean-Clément Martin. Je disais donc que cette exécution du 21 janvier 1793, qui est restée comme une date importante dans l'histoire de France, a été le résultat d'un processus, d'un long processus. Ça n'a pas été un mouvement de colère spontané, c'est le résultat d'un processus, c'est-à-dire d'une décision de procès et d'un procès.
On peut dire, pour faire bref, que la Révolution va commencer à partir de l'été 1789. Involontairement. Mais on se met à parler de la Révolution à ce moment-là.
Avec la convocation, il faut le rappeler, des États généraux qui prennent
changent,
en quelque sorte leur indépendance, leur
c'est
autonomie
ça.
Et qui revendiquent.
Voilà. Avec le roi qui accepte, contraint et forcé, de perdre son pouvoir à partir de la fin 1789 et surtout de 1791 en installant une espèce de monarchie parlementaire qui échoue totalement, en partie de la faute du roi. Je pense qu'il faut bien le dire clairement. Le roi joue un double jeu, on y reviendra tout le temps. Le roi n'arrive pas à se contenter du rôle, ça peut se comprendre, mais du rôle qui lui a été donné, si bien que ça débouche sur cette crise extraordinairement grave, Jean Garrigue le disait tout à l'heure, de l'invasion des Tuileries. L'invasion des Tuileries, ça voudrait dire que d'un seul coup, il y aurait des mécontents qui auraient envahi le palais des Tuileries où le roi était.
Le palais des Tuileries où le roi était, il faut le préciser, parce que très rapidement, le roi a quitté Versailles, il faut le rappeler, au début de la Révolution. En octobre 1789, il s'est retrouvé à Paris et dans un château qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le château des Tuileries.
À côté du Louvre, et les députés, au passage, sont à 200 mètres du palais, dans un bâtiment qui n'existe plus, sur lequel, aujourd'hui, se trouve la rue de Rivoli. Bon. Donc, on est dans un tout petit milieu. Bon. Donc, le roi est dans le palais des Tuileries, les députés sont à 200 mètres de là, et il va y avoir effectivement, alors moi je dirais, un coup d'État. En août 1792, je préfère coup d'État à invasion. Parce que coup d'État, ça veut dire que ça a été préparé aussi. Ça a été préparé par une partie des Parisiens, ceux qu'on appelle traditionnellement des sans-culottes. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, on va revenir sur
On va s'en contenter. Hein. Bon. Donc, il y a des gens qui sont des révolutionnaires, qui vont préparer effectivement un coup d'État contre le roi, parce qu'ils estiment que le roi est traître, parce qu'ils estiment que la guerre qui est en train d'être presque perdu quand même, hein, contre les Autrichiens et les Prussiens, est perdu de la faute du roi, parce que le roi alimente les renseignements des ennemis, et c'est pas complètement faux, on oui, le sait quand même.
C'est l'Europe des monarchies qui lutte contre la Révolution.
Alors, sauf l'Angleterre qui pour l'instant n'est pas en guerre. Donc, on est bien dans ce climat de guerre, avec un roi considéré comme traître, et un roi qui, moi je le dirais quand même un petit peu aussi à l'envers, prépare le coup d'État lui aussi, parce que tout le monde sait très bien qu'on va à l'affrontement, et qu'il y a au mois d'août 1792, dans le palais des Tuileries, on ne sait pas trop, 1500, 2000 personnes qui sont là, des nobles, des gardes suisses, pour résister aux sans-culottes dont on attend l'attaque. Donc, invasion, non. Coup d'État préparé des deux côtés, oui. Et au milieu, je dirais, de tout cela, les députés, qui sont à ce moment-là les députés de ce qu'on appelle encore l'Assemblée législative, c'est pas la Convention qui va être réunie à partir de septembre, et ces députés de l'Assemblée législative sont... pour une grande partie des gens qui sont plus ou moins favorables à la monarchie, mais qui sont complètement discrédités parce que ils n'ont pas gardé le contrôle du pouvoir, et ceux qui incarnent le pouvoir véritablement, ce sont ceux qu'on appellerait aujourd'hui les Girondins. Alors là aussi, on va dire Girondins, hein. Ouais. On va pas rentrer dans trop de... C'est-à-dire des Jacobins. Parce que là aussi, pardon, mais c'est très compliqué en fait. Ces Jacobins-là sont en train de se diviser entre ceux qui veulent vraiment faire la révolution et qui sont en train de devenir progressivement les montagnards, et puis ceux qui sont en train de vouloir organiser la révolution en se méfiant de ces sans-culottes dont je parlais tout à l'heure, qui veulent continuer la révolution, et que nous avons l'habitude aujourd'hui d'appeler les Girondins. J'espère que je suis clair.
Bon. On essaie de vous suivre, mais c'est vrai que c'est très compliqué.
C'est compliqué.
Votre livre reflète cette complexité en l'expliquant. C'est une vie politique qui se forme,
absolument,
en fait, chaque
on
jour.
Là,
hein, la gauche,
ça.
La droite, voilà. Comme on dirait aujourd'hui,
oui, c'est ça.
Avec des évolutions constantes.
Continuelles. Et c'est ça qu'il faut accepter de comprendre. Les étiquettes ne sont pas posées définitivement sur la tête des gens. Et rien n'est joué. Bon, et donc au mois d'août 1792, grosso modo, ces Girondins qui sont encore au pouvoir dans l'Assemblée, eh bien, ils sont dans l'Assemblée, ils attendent, pour le dire simplement, ça peut paraître bizarre, mais ils attendent tout simplement les résultats du coup d'État. C'est du cynisme. Je ne pense pas exagérer les choses en le disant ainsi. On attend de savoir si le roi va être vainqueur ou si le roi va être vaincu. Or, ce qui va se produire, c'est que le roi va se réfugier rapidement à l'Assemblée, sans doute pour se mettre sous la protection des Girondins, sans doute avec un accord préalable qui conditionne cette arrivée du roi d'une façon un peu inopinée, et que, en fait, et c'est ça qui va être absolument déterminant, le coup d'État réussit au-delà de toute espérance, en quelque sorte, par les sans-culottes, qui chassent le roi, tuent les serviteurs, et estiment que ce sont eux qui dirigent le pays. Sauf que, et c'est ça aussi qu'il faut accepter de comprendre, c'est que ces sans-culottes révolutionnaires estiment, et de ce point de vue-là, je rendrai grâce à Jean Garrigue, estiment qu'ils n'ont pas de légitimité. Donc la légitimité politique, elle est au peuple français, et ce peuple français, c'est celui incarné par l'Assemblée des députés, c'est celui de l'Assemblée législative. Et c'est dans ce jeu-là, entre les courants révolutionnaires et, en quelque sorte, les courants qui sont les courants issus de la légitimité populaire, qui vont bientôt s'appeler les courants qui sont républicains, que se jouent tous les mois de d'août 1792 à janvier 1793.
Et c'est après ce coup d'État, comme vous dites, Jean-Clément Martin, que se forme la Convention en septembre 1792. Donc c'est une autre étape dans la Révolution. Et il est quand même symbolique de voir le roi se réfugier à l'Assemblée.
Alors oui, on ne va pas passer trop de temps sur cette question-là, parce que c'est vraiment, on est là aux limites de ce que l'histoire peut savoir. Il n'y a pas de source qui puisse résoudre les questions qu'on est légitime à se poser. Est-ce qu'il y avait un arrangement? Quel était le calcul? C'est évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont on ne saura jamais le fin mot. Ce qui est en revanche assuré, c'est que c'est sans culottes qui ont gagné le coup d'État, qui sont appuyés par ceux qu'on appelle les jacobins les plus radicaux, qui vont devenir les montagnards à la Convention.
C'est-à-dire l'extrême-gauche, on dirait aujourd'hui, non?
On dirait l'extrême-gauche. Oui. Pourquoi les montagnards? Sur le fond, c'est pas trop, peut-être parce qu'ils siégeaient en haut de l'Assemblée. Contentons-nous de ce qu'on a l'habitude de dire. Hein. On n'ira pas plus loin. Et parmi ces montagnards, il y a notamment quelqu'un qui est en train de prendre beaucoup de pouvoir, c'est Robespierre, qui n'est pas le seul, hein. Et autour de lui, des gens qui se rallient à ces positions plus radicales, comme Danton, comme Barrère, qui est en train de basculer de ce côté-là, même s'il est au milieu de l'Assemblée. Mais en fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que ces sans-culottes imposent véritablement, au nom de leur légitimité de révolutionnaire, de contrôler l'incarcération du roi, et il l'envoie avec sa famille au temple. Donc là aussi, le bâtiment a disparu, c'est dans le Marais, c'est au cœur de Paris.
Donc ça, la famille, c'est-à-dire Marie-Antoinette
et les enfants, et quelques personnes qui suivent cette famille, on les incarcère sans que personne ne sache ce qu'on peut faire du roi et de sa famille.
Que faire du roi? C'est la question qui se pose.
C'est une grave question, en définitive. Et pour une partie des sans-culottes, la question devrait être réglée rapidement. Il faut que le roi soit exécuté. Or, et c'est ça la question qui est absolument capitale, c'est que pour une partie du peuple parisien, du petit peuple parisien, la question n'est pas réglée du tout. Il y a une grande partie de cette population parisienne qui ne voit pas l'intérêt d'exécuter le roi, ne serait-ce que parce que, et là aussi, si je rebondis encore sur ce que Jean Garrigue a dit, il y a bien une légitimité, il y a bien un respect mystique des personnes au pouvoir, même pour les gens les plus révolutionnaires, le roi garde une aura particulière et on éprouve un respect vis-à-vis de lui. Et qui va durer, en quelque sorte, jusqu'en janvier 1793. Donc on est dans ce climat très bizarre d'un pays en guerre, d'un pays où les luttes politiques sont extrêmement grandes, d'un pays qui a vu la naissance d'une nouvelle assemblée, la Convention, où il n'y a grosso modo que des gens partisans de la Révolution qui sont députés, partisans donc de la République, et d'un roi dont on ne sait pas quoi faire.
Alors il y a cette exécution dont on va parler, de la décision du procès, le procès que vous expliquez avec force détail dans votre livre, Jean-Clément Martin, mais on peut aussi préciser que l'histoire aurait pu s'écrire autrement, c'est-à-dire qu'au début de la Révolution, le roi aurait pu être intégré. Il y a eu d'ailleurs une tentative dans la Constitution, dans les institutions, et un historien que vous citez, Albert Mathiez, a pu même écrire, et là je vous cite avec raison, au début du XXe siècle, que Louis XVI avait été le premier président de la République française. Il faut que vous nous expliquiez cela.
Oui, alors ça, c'est une réflexion de politiste. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui aujourd'hui encore doit nous rester dans nos têtes. C'est que lorsque Louis XVI, qui était, alors on remonte encore en arrière, Louis XVI qui était un roi réformateur. Faut jamais l'oublier. C'est quand même lui qui lance des réformes après déjà son grand-père Louis XV qui avait entamé là aussi des réformes que la noblesse et le haut clergé avaient refusées. Hein. Bon, le roi Louis XVI crée un certain nombre de réformes qui sont reprises et qui sont inscrites dans notre vie aujourd'hui, notre vie politique, comme l'héritage de la Révolution. Mais nous avons hérité, notamment avec le mot département, tout bêtement, nous avons hérité des réformes de Louis XVI. Et ce roi qui voulait, en quelque sorte, là, créer autour de lui de nouvelles assemblées avec lesquelles il aurait pu travailler, ce roi va rentrer en Révolution, va accepter la mise en place de cette monarchie parlementaire dont je parlais tout à l'heure à partir de 1791. Et de ce point de vue-là, il incarne vraiment, et je crois qu'on peut le comprendre comme ça, il incarne vraiment cette espèce de monarque éclairé, de monarque parlementaire, comme la reine d'Angleterre, le roi des Belges, etc. C'est-à-dire, véritablement, la personnalité du président de la Troisième République, c'est l'époque à laquelle, pendant laquelle vivait Albert Mathiez, ou Mathieu, donc il incarne là cette image de ce président tutélaire qui règne et qui ne gouverne pas.
C'est-à-dire que si les choses, bon, c'est difficile de avec les si, on pourrait effectivement trois petits points, mais on a échappé en quelque sorte à une sorte de monarchie à l'anglaise, en fait.
Absolument. Alors pourquoi est-ce qu'on échappe à la monarchie anglaise? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a objectivement, et je le dis sans jugement, il y a objectivement un double jeu du roi et de la famille royale. Bon, l'affaire de Varennes, évidemment, ruine la crédibilité.
C'est-à-dire que la fuite du roi
en 1791 a ruiné la crédibilité qu'on pouvait accorder au roi. Et puis, l'Assemblée, même ceux qui étaient partisans de cette monarchie parlementaire, des gens dont les noms ont un peu disparu, mais c'est Barnave, c'est les Duport, c'est la Metz, c'est les Chapeliers, des gens qui jouent un rôle important en 1790-1791, vont eux aussi, en quelque sorte, ne pas comprendre que là, ils doivent avoir une politique transparente vis-à-vis des réclamations politiques qui sont portées par des courants plus radicaux, notamment par des gens comme Robespierre ou Pétion ou Brissot. Et c'est ce double jeu du roi d'un côté et le double jeu des élites à ce moment-là, 1790-1791, qui ruine en quelque sorte cette monarchie parlementaire.
Alors revenons donc à 1792, voilà. Puisque l'histoire a pris un cours différent. Donc cette convention née en septembre 1792 et la décision finalement d'organiser un procès du roi. Comment se passe en quelques mots cette décision de juger le roi en tout compte fait, avec un procès en bonne et due forme? On va y en venir dans un instant.
Alors je serai bref. Le livre est compliqué, ça je l'admets, mais il était
la situation l'est.
Oui, la situation est extrêmement compliquée. À partir d'août 1792, c'est-à-dire d'un massacre, le coup d'État de 1792, c'est un massacre qui a certainement entraîné la mort de plus d'un millier de personnes. Mais ce massacre est redoublé, il ne faut jamais l'oublier, par les massacres de septembre, c'est-à-dire devant la crainte que les Parisiens ont de l'arrivée des ennemis prussiens, autrichiens dans Paris, il y a ce grand mouvement de tuerie des prisonniers considérés comme dangereux. Et là aussi, on tue à nouveau, en septembre 1792, sans doute, plus d'un millier de personnes. C'est-à-dire que la Convention, cette assemblée qui a proclamé la République, est véritablement confrontée à une peur panique irrationnelle, une peur panique de voir la contre-révolution triompher et l'obligation de s'appuyer sur les sans-culottes, sur ceux qui veulent faire la révolution. Et ce que veulent ces révolutionnaires, c'est continuer la révolution, l'affirmer, éliminer les ennemis. Et parmi ses ennemis, le premier de ses ennemis, c'est bien sûr le roi pour une partie d'entre eux. Et donc, de septembre 1792 à décembre 1792, pour faire bref, les courants des sans-culottes les plus radicaux réclament cette mort du roi comme la garantie qui serait donnée par les députés de la poursuite de cette République.
Donc, en quelque sorte, Jean-Clément Martin, les députés sont contraints de juger, d'organiser ce
Alors,
procès.
Alors, ils sont contraints.
Ils sont divisés, là
aussi.
Ils sont
divisés. Ils sont divisés parce que ils sentent bien et ce qu'ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas massacrer le roi. Et il y a quelque chose qui est véritablement important parce que quelque chose est répété régulièrement à raison, mais il faut prendre là aussi des précautions. C'est Saint-Just d'abord et Robespierre ensuite.
Député de l'Aisne, donc Saint-Just, 25 ans, à mort le roi.
Oui. Et Saint-Just puis Robespierre, qui est guère plus vieux, vont dire qu'il faut condamner le roi à la mort et l'exécuter sans procès. Or, ce qui est important, c'est de bien comprendre que précisément la quasi-totalité des députés à la Convention, y compris Marat, qu'on prend pas pour un modéré. Non, on est bien d'accord. Mais y compris Marat disent non, il n'est pas question d'exécuter le roi sans procès, on nous accuserait de l'avoir massacré. Et donc, on voit bien que la décision de juger le roi participe de la volonté de dire « la révolution ne doit pas être menée n'importe comment, il doit y avoir des règles procédurales, il doit y avoir un minimum de respect de règles juridiques ». Et ça veut dire au passage, et je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus, ça veut dire qu'une partie des députés, même les plus à l'extrême gauche, et qui sont beaucoup plus radicaux que Robespierre. Robespierre n'est pas le plus radical de très loin dans ce groupe-là, veulent qu'il y ait une décision qui soit une décision véritablement politique, qui interdise aussi à tous les sans-culottes les plus enragés de pouvoir prendre le pouvoir. C'est le sous-titre du livre est bien ça, c'est « La France entre révolution et république ». Et on est bien là, avec le procès du roi, un moment où on dit, est-ce qu'on va continuer éventuellement à organiser des massacres, ou est-ce qu'on va marquer des règles et marquer des limites? Et le procès du roi, c'est ce moment-là.
Alors, il y a des dates importantes dans ce procès. Il y a d'abord le 15 décembre, où les députés présentent au roi les chefs d'accusation. Enfin, l'acte d'accusation qui est assez long d'ailleurs, non?
Oui, mais si vous me pardonnez, je dirais que moi, je ne sais pas. Il me semble qu'on peut aller assez vite sur ces questions-là. Parce que si on le résume brièvement, on va dire malheureusement que ce procès est un procès mal organisé, est un procès qui est d'une certaine façon bâclé. N'ayons pas peur des mots.
Le roi a quand même des avocats.
Le roi obtient d'avoir des avocats parce que les conventionnels l'estiment que là aussi, il faut respecter les droits du roi. Mais si on le dit autrement, les actes d'accusation contre le roi sont des actes d'accusation, là aussi, empreints d'un juridisme qui fait que, en quelque sorte, les accusations du roi ne pourront jamais déboucher sur des faits très précis, puisqu'on n'arrivera jamais à prouver que le roi a trahi, on n'arrivera jamais à prouver que le roi a donné des ordres pour massacrer.
Alors, vous nous expliquez le déroulement de ce procès jusqu'au moment où les députés doivent s'accorder pour se mettre au point des questions qui formeront l'acte d'accusation. Voilà. Et il y a trois questions que vous citez. Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, le jugement, quel qu'il soit, sera-t-il envoyé à la sanction du peuple? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, c'est quelle peine lui sera-t-il infligé? Et c'est c'est à ce moment-là également que les discussions vont bon train et qu'il y a de vives tensions parfois.
Alors, ces débats ont lieu donc dans une assemblée d'à peu près de 700 personnes, environnée de 700 à 1000 spectateurs. Ouais. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que les débats sont publics et que les députés sont continuellement immergés au sein des spectateurs qui les accostent, qui les insultent, qui les menacent. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est que au fil des débats, qui sont des débats extraordinairement violents, se posent toutes les questions possibles. Les questions d'abord de savoir si on juge le roi seulement ou toute sa famille, y compris le duc d'Orléans, donc son cousin, qui est lui aussi député montagnard. Philippe Égalité. C'est un débat déjà très compliqué. Puis la deuxième question, qui va être en quelque sorte absolument déterminante, c'est de savoir si on va effectivement pouvoir envoyer le roi à la mort sans appel au peuple. Et c'est quelque chose qu'il faut rapidement quand même évoquer, parce que c'est une question qui va revenir continuellement et qui est quand même assez bizarre. Parce que ceux qui vont être les partisans de l'appel au peuple, ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Girondins, et qui disent « nous, députés, avons été élus pour prendre des décisions politiques, mais pas élus pour être juges ». Donc, il serait légitime que pour une décision si grave, on fasse appel à tous les électeurs français, en sorte de plébiscite, pour savoir quelle serait leur attitude vis-à-vis du roi. Et paradoxalement, donc, on a, de ce point de vue-là, des Girondins qui sont, entre guillemets, des députés attachés au peuple. On va dire ça comme ça. Mmh. Bon. Et paradoxalement, ce sont les montagnards, les gens les plus à gauche, qui disent « Ah mais non !» Et il y a des formules assez extraordinaires. On ne peut pas, c'est même chez Marat, on ne peut pas demander à un cultivateur qui n'y connaît rien de se prononcer sur la mort du roi. Ce qui est quand même assez renversant.
Et qui montre que la situation est complexe. Hein.
Oui, on est là un peu à l'envers de ce qu'on aurait dans la tête. Et c'est aussi à l'envers aussi de position, puisque une grande partie des Girondins qui vont se prononcer contre la mise à mort du roi prennent cette position parce qu'ils sont, alors authentiquement, et je le dis là en pesant vraiment les mots, authentiquement hostiles à la peine de mort. Il ne s'agit pas seulement d'une position de modéré, il s'agit bien de gens qui ont des principes, qui disent non, on ne tuera pas le roi. Et si vous me permettez d'un mot, et c'est aussi assez paradoxal, c'est que quand Robespierre va une deuxième fois dans le courant de ces débats dire qu'il est pour la mise à mort du roi, il dira on va exécuter le roi et on va immédiatement supprimer la peine de mort de l'arsenal judiciaire. Donc on est dans ce moment extraordinairement compliqué qui repose sur quoi ? Qui repose en définitive sur est-ce qu'on continue ou pas à faire la révolution, et c'est bien ça le cœur des choses.
Alors, pour répondre à ces, pour revenir à ces trois questions, Jean-Clément Martin, Louis est-il coupable ? La réponse est oui.
Et alors ça c'est très impressionnant, c'est que on commence par cette question-là. Et là, cette question va enchaîner tout le monde, puisque à la quasi-unanimité, tous les députés répondent oui. Alors, y compris les Girondins.
La deuxième question, faut-il recourir au peuple ? C'est non.
Et là, ça va être le basculement, puisque les Montagnards réussissent à dire il faut que la légitimité soit celle de l'Assemblée. Et y compris là, les plus modérés d'entre eux se rendent bien compte que si la Convention perd sa légitimité, on rentre dans un moment incertain.
Quelle peine lui infliger ? C'est la troisième question. C'est là que les choses sont serrées.
C'est là où les choses sont serrées. Oui. Et c'est là surtout où il y a, et pour moi c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête absolument, il va y avoir en quelque sorte un coup de surprise. C'est après la première question, arrive brutalement dans l'Assemblée Danton qui n'était pas présent au moment de la première question. Et Danton qui va avoir une position extraordinairement brutale et encore inexpliquée en disant la décision qui doit être prise à la majorité simple. Dans le code pénal de 1791, c'était une majorité des trois quarts qui devait résoudre des questions aussi graves. Pourquoi est-ce que Danton réussit à imposer la majorité simple ? Parce que s'il a une personnalité écrasante et qu'il impose véritablement cette décision, pourquoi est-ce que lui fait basculer les choses ? Peut-être, et je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que il abandonne le roi, parce qu'il n'est peut-être pas sûr d'avoir les millions qui lui avaient été promis, et qu'il y avait là cet arrangement qui est certainement fait avec l'ambassadeur d'Espagne en France, avec des banques comme la Banque Le Couteux. Enfin, on est là devant un problème historique extraordinairement grave. D'un seul coup.
Vous voulez dire que Danton a voté la mort du roi parce qu'il a été déçu et que les promesses,
On peut se poser la question.
Les promesses n'ont pas été tenues.
Il aurait pu. Du roi, il n'était pas présent au début du procès. Il intervient brutalement. Il fait changer la décision comme ça. Et ce qui est extrêmement important, c'est que tout le monde sait bien que la décision sera prise avec une faible majorité.
Et ça a été le cas.
26 voix au-delà de la majorité. C'est 26 voix de plus, c'est grosso modo 44 voix qui sont pour la mort contre les gens qui ont, en définitive, auraient voulu que le roi soit simplement banni ou emprisonné.
Alors qu'il y avait quasiment l'unanimité pour le juger coupable. Ah, hein, oui. On voit la différence entre le fait d'être coupable et la peine.
Absolument.
Donc, à quelques voix après. Et donc, et là, j'en reviens à la question du début. On arrive donc à cette exécution le 21 janvier 1793, avec un processus que vous racontez presque minute par minute. Et une exécution aux alentours de 10h20, 10h22.
Oui, voilà, c'est ça, absolument. Non, alors ça peut paraître bizarre d'être aussi précis, mais il me semble que il faut vraiment passer par là. Parce que si on le dit d'une façon très précise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 21 janvier 1793, sur une décision prise par l'Assemblée, exécutée par l'Assemblée des ministres, qui sont des ministres girondins, et mise en œuvre par la Commune de Paris, qui ne sont que des sans-culottes. Donc les trois instances ont été mêlées, et ce qui se passe dans Paris, c'est à peu près, c'est invraisemblable d'y penser. 100 000 hommes à peu près sont mobilisés pour la mort du roi. Il y a quelque chose qui est inouï, et ce qui se passe encore de façon plus inouïe, c'est que les députés qui sont grosso modo à 200 mètres, 300 mètres de la place de la Révolution, place de la Concorde aujourd'hui, ne sont pas présents pour la mort du roi. Aucun n'est là, normalement. Il n'y a que les sans-culottes, et quand les sans-culottes sont délégués pour rendre compte à la Convention, ils n'obtiennent que quelques minutes d'attention. Aujourd'hui, c'est fini, ça ne nous intéresse pas. Donc, on est là dans quelque chose qui mérite la réflexion. Est-ce que la mort du roi sanctionne, valide la République ? Oui, d'une certaine façon. C'est toujours ce qu'on Barrère va dire. Mais en même temps, ces députés estiment qu'il est bien plus important de ne pas confondre la mort du roi avec l'établissement de la République. Ils ont bien pris le soin de laisser aux sans-culottes d'exécuter le roi. Un an après, quand il y aura l'anniversaire de la mort du roi, quelques députés se hasarderont sur la place de la Révolution et trouveront que le spectacle est révoltant, puisqu'on leur offre la mise à mort de quelques contre-révolutionnaires. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se joue. C'est bien d'essayer de détacher la République de l'exécution.
C'est ce que vous écrivez. La République s'affirme contre la Révolution tout en s'en réclamant.
Voilà. Et on est là dans un entre-deux qui fait que nous avons hérité de ce moment bizarre où on ne sait jamais quoi faire de la mort du roi en République, qui permet de comprendre aussi au moment de la Troisième République que les républicains de la Troisième insisteront sur le côté républicain et pas du tout sur le côté révolutionnaire, qu'ils sanctifieront le 14 juillet 1790 plus que le 14 juillet 1789, tout en gardant suffisamment de flou pour éviter de vexer tout le monde.
En rappelant très rapidement, parce qu'il faut conclure cette émission, Jean-Clément Martin, qu'il y a eu des résurgences de monarchie après, hein, il faut rappeler Louis XVIII, Charles X, et Louis-Philippe notamment. Merci Jean-Clément Martin d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir parlé à l'appui de votre livre de cette exécution du roi et de ses conséquences et de la complexité du processus qui a conduit à cette exécution le 21 janvier 1793. Votre livre est publié chez Perrin. Merci.
Merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez ce magazine sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré en tapant tout simplement Idée RFI et sur l'application RFI Pure Radio aussi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.